Et merci d'avoir choisi Europe 1, il est midi.
Le trajet avec le temps tout le long, les détenus quand ils sortent, ils crient, ils bougent, ils sautent, ils chantent. Faut vraiment entendre un gros bruit pour s'inquiéter quoi.
Au vu et au su des policiers, quatre détenus de la prison des Baumettes à Marseille se sont fait la malle hier soir. Europe 1 était la première à vous informer et on vous donne tous les détails, Pierre, dès le début de ce journal.
C'est un drame qui a allumé la mèche au sujet des violences envers les forces de l'ordre. Il y a 3 ans, 4 policiers recevaient des cocktails Molotov dans leur véhicule à Viry-Châtillon dans l'Essonne. Le procès s'ouvre aujourd'hui. Le vaccin contre la grippe, est-ce bien nécessaire? En tout cas, les pharmaciens sont désormais formés pour l'administrer.
Les patients nous reconnaissent vraiment comme professionnels de santé, ce qui n'était peut-être pas forcément le cas avant.
Dans ce journal également, on a le tracé du Tour de France 2020. Les habitants de la moitié nord vont faire la grimace. Nous serons avec Christian Prudhomme, le patron du Tour. Du nouveau dans les complémentaires santé, il va y avoir désormais un dispositif unique. Gérard Collomb lance sa campagne pour les municipales à Lyon et au passage règle ses comptes avec David Kimmelfeld, son ancien allié devenu rival.
Je ne vois pas comment on peut avoir été solidaire d'une action pendant plusieurs mandats et tout d'un coup dire que ce ne serait pas la bonne ligne et qu'il faut en changer.
Rudy Garcia, nouvel entraîneur de l'OL et non plus de l'OM. Et puis la 46e édition de la FIAC ouvre après-demain à Paris. Halte aux idées reçues, nous serons avec la directrice Jennifer Flay. Le temps, Céline Dacosta, encore quelques orages dans le sud-est.
Oui, pour les Alpes-Maritimes notamment, seul département encore en vigilance orange. Pour l'est de la pluie, c'est la perturbation d'hier qui s'est décalée. Pour les autres, un ciel mitigé, nuages éclaircis, encore quelques averses. Le soleil revient quand même un petit peu plus largement par l'ouest. Merci Céline. Météo complète, midi et demi sur Europe 1.
Europe 1.
Europe 1 vous le disait dès ce matin, Pierre, 4 détenus des Baumettes à Marseille se sont évadés alors qu'ils se trouvaient dans le fourgon de police qui opérait leur transfert.
Stéphane Frangy, vous êtes l'un des correspondants d'Europe 1 à Marseille. Comment les personnels pénitentiaires expliquent cette bévue ?
Et la question est embarrassante. En effet, comment ces prisonniers, regroupés par deux dans des mini-cellules à l'arrière du fourgon, ont pu forcer 2 portes sans être remarqués ? Eh bien, selon le surveillant pénitentiaire qui a découvert que les détenus manquaient à l'appel, tout peut s'expliquer par des problèmes de vétusté du matériel et de sous-effectifs.
Il y a des détenus qui nous disent clairement que voilà, c'est 2 premiers qui sont sortis d'une geôle pour ouvrir aux 2 autres et sortir. Apparemment, oui, ils auraient défoncé la porte. C'est du matériel vétuste, c'est utilisé tous les jours, le camion est vieux. Vous savez, sur le trajet avec le temps tout le long, les détenus, quand ils sortent, pour eux, on dirait qu'ils partent au Club Med, ils crient, ils bougent, ils sautent, ils chantent. Il faut vraiment entendre un gros bruit pour s'inquiéter, quoi. Enfin, ça nous étonne pas quelque part, parce qu'on en manque de personnel, de matériel, que ce soit dans la police, dans la pénitentiaire ou tous les autres corps de force de l'ordre.
Et en effet, selon les informations d'Europe 1, il n'y avait pas de policiers pour surveiller l'arrière du fourgon pendant le trajet. Et l'addition aurait même pu s'alourdir, puisque 4 autres détenus qui comparaissent d'ailleurs pour un tentaculaire procès de blanchiment ont refusé de s'évader. Et d'après le témoignage de l'un d'eux rapporté par son avocat, les portières n'étaient pas fermées et claquaient même dans les virages.
Merci Stéphane Frangy, correspondant d'Europe 1 en direct de Marseille.
Des policiers qui depuis plusieurs années maintenant mettent en garde contre le manque de moyens et qui crient leur colère quant à leur insécurité.
Oui, le point de départ de ces dernières années, ça a sans doute été cet incendie de 2 véhicules de police à Viry-Châtillon dans l'Essonne. Souvenez-vous, c'était le 8 octobre 2016. 4 policiers sauvagement attaqués dans leur voiture par une vingtaine d'assaillants, des jets de pierre et surtout ces cocktails le Molotov qui donc ont mis le feu aux 2 véhicules. Et c'est aujourd'hui que s'ouvre le procès des agresseurs présumés à Évry dans l'Essonne. 13 garçons âgés de 16 à 21 ans à l'époque comparaissent pour tentative de meurtre.
Guillaume Bier, vous êtes à la cour d'assises des mineurs de l'Essonne où ce procès vient de s'ouvrir. Guillaume, il se déroulera à huis clos ?
Oui, à huis clos, parce que 3 des accusés étaient encore mineurs au moment des faits, donc le huis clos a été prononcé. Le procès va se dérouler sans la présence du public ni de la presse, procès dans un contexte particulier. 3 ans tout juste, vous l'avez dit, après cette violente agression en plein après-midi à Viry-Châtillon, attaque qui avait entraîné une large fronde dans la police. Et cette émotion des forces de l'ordre était encore palpable ici ce matin à l'ouverture de l'audience, avec déjà un gros dispositif de sécurité pour éviter tout incident. Et puis, les larmes d'une policière victime sur le banc des parties civiles. Elle fait partie des 4 fonctionnaires attaqués ce jour-là et on l'a vu pleurer en se retrouvant face aux accusés assis dans le box. Image forte de cette jeune fonctionnaire en larmes alors qu'elle a tenu à venir à l'audience en uniforme. Elle porte son polo de police et son écusson de la sécurité publique comme un symbole face à ses agresseurs présumés. Dans le box, pas de réaction particulière, quelques accusés qui baissent simplement les yeux. Ils vont maintenant devoir répondre aux questions, eux qui nient leur participation aux faits pour la plupart. Ce procès doit durer 8 semaines, verdict attendu le 6 décembre prochain.
Merci Guillaume Bier en direct de la cour d'assises des mineurs de l'Essonne. 2,5 tonnes de cannabis, 2,5 tonnes saisies dimanche à Argenteuil dans le Val d'Oise. 3 trafiquants présumés ont été interpellés. La tornade d'hier particulièrement sévère à Arles. Les orages ont arraché des dizaines de toitures retournées, des mobil-homes dans un camping. Une 60aine de personnes a dû être évacuées. Au total, 150 habitations touchées avec pour bilan 3 blessés légers. On y revient tout à l'heure à 13h.
Vous écoutez Europe 1, il est midi 5, la suite de votre journal. Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchamp.
Cette saison, beaucoup d'entre vous allez vous faire vacciner contre la grippe. On rappelle tout de même que le vaccin, Pierre, n'est recommandé qu'aux personnes à risque.
Oui, c'est-à-dire 12 millions de personnes environ, les seniors, les femmes enceintes, les diabétiques, les asthmatiques, etc. Bonjour Benjamin Lévesque.
Bonjour Pierre.
La nouveauté, c'est que les pharmaciens peuvent désormais administrer ce vaccin.
Oui, après plusieurs expérimentations en région, ça y est, hein, toutes les pharmacies de France peuvent faire ce vaccin. C'est une manière d'encourager, de faciliter la vaccination, puisque vous n'aurez pas besoin de prendre rendez-vous chez votre médecin généraliste. La grande majorité, les 3/4 des officines, sont habilitées à faire la piqûre. Les pharmaciens ont été formés. Et pour la pharmacienne Elisa Robrunet, eh bien ça va permettre de casser cette image de simple vendeur de médicaments.
Là, on est vraiment vu comme professionnel de santé, vraiment à part entière, ce qui n'était peut-être pas forcément le cas avant. Hein. Et là, vraiment, les patients nous reconnaissent vraiment comme professionnels de santé.
Et chaque vaccination apportera 6,30 euros aux pharmaciens qui demandent déjà, pour certains, à aller encore plus loin, à pouvoir faire d'autres vaccins comme des rappels ou celui de la rougeole, par exemple.
Benjamin, cette fois sur l'efficacité du vaccin, on peut quand même, précisons-le, attraper la grippe quand on a été vacciné.
Eh bien oui, parce qu'il n'est pas efficace à 100%. La particularité du vaccin grippe, c'est qu'il faut le repenser chaque année. Un exemple, le vaccin qui est disponible là à partir d'aujourd'hui, eh bien les experts de l'OMS ont décidé de sa composition. Il y a plus de 6 mois, en fonction des 4 souches de virus grippaux qui circulaient le plus à ce moment-là. Le problème, c'est qu'il suffit qu'une souche de grippe ait muté entre le moment où on a fabriqué le vaccin et l'épidémie, et celui-ci perdra une partie de son efficacité. Mais de façon générale, ces dernières années, les spécialistes sont d'accord pour dire qu'il a été efficace aux alentours de 30 à 50% environ. Mais même avec un faible taux d'efficacité, eh bien ça permet d'avoir une grippe moins sévère avec moins de complications.
Merci Benjamin Lévesque.
4 ministres entendus depuis hier, Pierre, par la commission d'enquête parlementaire sur l'utilisation aux Antilles du chlordécone.
Le chlordécone, qu'est-ce que c'est ? C'est un pesticide dangereux qui, à terme, a pollué les sols de Guadeloupe et de Martinique, en particulier les bananeraies. À l'origine, au début des années 70, il avait été utilisé pour lutter contre le charançon qui détruisait les récoltes.
Et selon les statistiques, 90% de la population adulte des Antilles françaises est contaminée, avec à la clé des risques de cancer de la prostate. Emmanuel Macron avait parlé en septembre 2018 de scandale environnemental, fruit d'un aveuglement collectif.
Et depuis hier, 4 ministres sont entendus par la commission d'enquête sur ce sujet. Et ce sera cet après-midi au tour de la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, d'être auditionnée. Jean-Jacques Hérim.
Oui, et ce sera la 3e audition après celle hier de Frédéric Vidal, la ministre de la Recherche, et d'Agnès Buzyn, la ministre de la Santé. Alors pourquoi ces auditions sont-elles importantes, au moins symboliquement ? Parce que pour la première fois aux yeux des Antillais, elles engagent une parole officielle. Or, pendant longtemps, la population de Guadeloupe et de Martinique a eu l'impression d'être la victime d'une catastrophe sanitaire totalement oublié. C'était assez frappant hier. D'ailleurs, lors de l'audition d'Agnès Buzyn, les membres de la commission avaient besoin d'entendre la ministre de la Santé dire que oui, l'État était bien responsable. Il faut rappeler, vous l'avez dit, que la chlordécone a contaminé plus de 90% de la population de Guadeloupe et de Martinique. Les sols, les mers, tout est pollué pour 700 ans au moins, avec des conséquences très concrètes sur l'industrie, par exemple sur la pêche, entre autres, comme l'explique Serge Letchimy, il est député de la Martinique et président de cette commission d'enquête.
On demande aux pêcheurs d'aller pêcher ailleurs. Bon, c'est très bien de le dire, mais avec quel bateau ? Vous leur demandez d'aller au large, mais avec le même petit bateau. Ça n'a pas de sens. Donc il faut investir sur ça, les accompagner. Il faut un bateau plus grand, il faut des matelots pour aller plus en large.
Voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais toutes ces auditions sont l'occasion de faire le point sur les études sanitaires en cours, sur les précautions à prendre, sur les éventuelles mesures de dépollution et surtout aussi sur les règles d'indemnisation à mettre en place, autant de sujets qui seront à nouveau évoqués jeudi lors de l'audition du ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume.
Merci Jean-Jacques Herry. 922 millions de promesses de dons pour Notre-Dame de Paris, c'est une annonce du ministre de la Culture, Franck Riester. On revient sur le sujet tout à l'heure à 13h.
Il est midi 9.
Europe 1.
Et vous restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. Tout ce qu'il faut savoir sur le Tour de France 2020. A tout de suite. À la suite de votre journal, Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin. Ça y est Pierre, c'est fait, on a le tracé du Tour de France 2020.
107e édition, il partira le 27 juin de Nice pour s'achever le 19 juillet. Comme toujours sur les Champs-Élysées, vous allez le voir, il y a des surprises.
Et nous sommes avec le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Alors dites-moi ce tracé, vous savez qu'il a fait jaser,
oui,
parce
qu'on
va le découvrir ensemble, mais il est très sud, dites-moi pour une fois.
Ah, c'est un tracé très sud et en effet, oui, c'est très rare puisqu'en 107 éditions du Tour, c'est seulement la 7e fois que nous partons du sud avec ce grand départ de Nice. Donc naturellement, quand on est au sud, on est près de la montagne, on en profite pour aller très vite dans les Alpes, puis dans le Massif central et ensuite dans les Pyrénées, avant de remonter vers la Charente-Maritime et les îles de Ré et d'Oléron, puis de basculer sur le Massif central, les Alpes à nouveau et les Vosges.
Ben oui, mais justement, c'est-à-dire qu'on trace, c'est un peu comme en météo, c'est-à-dire que de l'île de Ré jusqu'aux Vosges, et puis au-dessus, à part Paris pour la dernière journée, il n'y a rien.
Oui, vous savez, avec les 3500 km du Tour de France d'aujourd'hui, hein, autrefois le Tour faisait 4000, 4500 jusqu'à 5700, on ne peut plus aller partout. En revanche, si vous superposez les cartes du Tour de France, eh bien vous voyez qu'on va partout sur 5 ou 6 ans. On avait fait 4 étapes en Bretagne en 2018, on était plus à l'est l'été dernier, et on reviendra évidemment dans les régions où le Tour n'est plus là aujourd'hui. Les 3500 km du Tour de France, la volonté d'avoir des choses les plus variées possibles font qu'on ne peut plus passer partout, mais on reviendra, que chacun se rassure. Et je prends cette polémique évidemment du bon côté, ça veut dire que les gens ont envie du Tour.
Le Tour, cette fois, il est 100% français, ça va faire plaisir, il n'y a pas de départ en Belgique ou à Londres, non, on est en France, on reste dans l'Hexagone.
Oui, on reste en France du début à la fin. Il y a 2 ans, on avait fait quasiment toute la France avec une quinzaine de kilomètres en Espagne. En 2013, pour la 100e édition du Tour, c'était aussi une édition totalement française. Mais vous savez que le Tour de France aille à l'étranger, c'est défendre le Tour et c'est défendre la France. C'est faire que des gens à l'étranger s'intéressent au Tour, s'intéressent à notre pays et le découvrent. Donc c'est un élément essentiel. Aller à l'étranger, c'est aussi défendre le Tour, c'est défendre notre pays, c'est montrer les beautés de notre pays au monde entier, puisque les images du Tour partent dans 190 pays. Mais en effet, cette année, il est à 100% dans l'Hexagone.
On regarde souvent les étapes montagnardes, montagneuses. Quels sont les cols très difficiles de cette année ?
Ça grimpe dès le départ.
Oui, ça grimpe dès le départ avec le Turini qui est un gros morceau du rallye Monte Carlo dès le deuxième jour, dès le dimanche. Ce départ de Nice entre ciel, terre et mer nous permet d'avoir tout de suite de la montagne. Ensuite, dans les grandes nouveautés, eh bien, il y aura une arrivée au Puy-Marie, la chaîne des Puys au Puy-Marie dans le Cantal, avec une arrivée qui sera magnifique pour la première fois dans l'histoire du Tour. Une arrivée dans l'Ain, dans le département de l'Ain, dans le Jura, le massif du Jura, au Grand Colombier qui est aussi très rude. Et puis, quelque chose de nouveau, ce qui est pour moi le prototype du col du 21e siècle, au-dessus de Méribel, le col de la Lauze, avec les 7 derniers kilomètres où les ruptures de pente sont absolument phénoménales, avec une vue quand on est en haut sur le Mont Blanc qui est extraordinaire. Il y aura du spectacle assurément parce que ce sera très sportif et ce sera aussi follement esthétique. Follement esthétique, vous aurez aussi l'étape d'Île-en-Île pour la première fois entre l'île d'Oléron et l'île de Ré en Charente-Maritime, par-delà Fort Boyard et les fortifications Vauban, ce sera superbe.
Oh, ça, on n'en doute pas. Merci Christian Prudhomme d'avoir été avec nous sur Europe 1 et merci à Axel May aussi qui a assuré ce duplex. Il est midi 15, la suite de votre journal, Raphaël Duchemin, Pierre de Villeneuve.
Et le Tour de France, bah tiens, il passera par Lyon. Et justement, alors qu'on était dans une guerre intestine, c'est finalement Gérard Collomb qui a bien été investi par En Marche pour briguer la métropole en mars prochain. Et ce matin, Gérard Collomb a donné le coup d'envoi de sa campagne depuis un bar branché de Lyon. Où vous vous trouvez, Jean-Luc Boujon ?
Oui, effectivement, Gérard Collomb très à l'aise ce matin, mais qui visiblement a cherché à ne pas trop en rajouter dans le triomphalisme. Lui qui a remporté son duel face à son ancien dauphin devenu rival David Kimmelfeld. Gérard Collomb sera donc bien le candidat officiel La République En Marche à la métropole de Lyon. grâce au soutien et à la fidélité du président de la République, a-t-il expliqué, grâce aussi à l'appui de François Bayrou, le président du MoDem, qui est venu le voir à Lyon samedi dernier. Gérard Collomb, qui après avoir déroulé son programme, un programme très teinté d'écologie, a tendu la main à son ancien rival pour que celui-ci le rejoigne.
Vous savez, avec David Kimmelfeld, nous avons été élus sur les mêmes listes, en portant un même projet. L'étiquette était la même. Et je ne vois pas comment on peut avoir été solidaire d'une action pendant finalement plusieurs mandats et tout d'un coup dire que ce ne serait pas la bonne ligne et qu'il faut en changer. Ça veut dire que toutes les portes sont ouvertes.
Alors soyons clairs, hein, il a peu de chances d'être entendu. David Kimmelfeld, qui est le président sortant de la métropole, a déjà déclaré plusieurs fois qu'il irait à la bataille quoi qu'il arrive. D'ailleurs, son premier meeting de campagne est prévu demain soir. Gérard Collomb lui a annoncé que sa campagne démarrerait vraiment en janvier, mais qu'avant, il allait lancer en novembre une grande consultation auprès des Lyonnais pour connaître leurs souhaits. Un peu façon grand débat du président de la République. La fidélité, toujours, vous le voyez, à Emmanuel Macron.
Merci Jean-Luc Bougeon, correspondant d'Europe 1 en direct de Lyon.
Pour tous ceux qui bénéficient de la CMU ou de l'ACS, ces aides qui permettent aux moins aisés d'entre vous de régler leurs frais médicaux, eh bien, ces deux dispositifs vont être remplacés, Pierre, par la complémentaire santé solidaire.
Oui, présenté ce matin, ce dispositif va permettre d'accéder à une couverture complémentaire santé au prix de 1 euro par jour. Explication, Emmanuel Dutheil.
La complémentaire santé solidaire se veut beaucoup plus simple et surtout beaucoup plus efficace. Le gouvernement est en effet parti d'un constat très basique. Beaucoup de personnes qui auraient eu le droit à ces dispositifs n'en font pas la demande, faute souvent de connaissance de ces aides. C'est surtout vrai pour ce que l'on appelle l'aide au paiement d'une complémentaire santé. Cette ACS est attribuée aux personnes qui sont un tout petit peu au-dessus du plafond de la CMU-C. Mais problème, il faut en faire la demande et la démarche jusque-là n'était pas si facile. Donc le gouvernement va simplifier fortement la démarche et il en profite pour fusionner ces deux aides, ce qui devrait permettre d'augmenter le nombre de bénéficiaires. Aujourd'hui, il y en a un peu plus de 7 millions. L'objectif est d'arriver à 10 millions, ce qui devrait permettre d'aider des personnes qui jusque-là étaient obligées de ne pas se soigner faute de moyens.
Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Les quatre propriétaires exploitants de deux manèges sont toujours en garde à vue après l'accident mortel de Firminy dans la Loire. Une jeune femme de 24 ans décédée, une autre de 20 ans grièvement blessée. La nacelle dans laquelle elles étaient a été projetée au sol à plus de 10 mètres de hauteur.
Vous écoutez Europe 1, il est midi 19. Europe 1. Restez avec nous sur Europe 1 et dans un instant, Rudy Garcia, d'un Olympique à l'autre. Et la FIAC, l'art contemporain pour tous ou pour une élite? À tout de suite. Il est midi 21, la suite de votre journal, Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin. Son nom est Rudy Garcia, il a 55 ans, à peine évincé de l'OM, le voilà qui rejoint l'Olympique Lyonnais.
Julien Froment, conférence de presse ce matin, comment est-ce qu'on a présenté officiellement son arrivée?
Bon bah écoutez, présentation tout en sobriété comme l'Olympique Lyonnais sait le faire, avec le président Jean-Michel Aulas, accompagné de son directeur sportif, l'ancien joueur de l'OL emblématique Juninho, et donc Rudy Garcia, ancien coach de Lille et, vous l'avez dit, de Marseille entre 2016 et 2019. Il s'est expliqué sur son choix de rejoindre le club rhodanien.
L'Olympique Lyonnais fait partie des meilleurs clubs en France et qu'il est régulièrement aussi sur la scène européenne. Je pense que l'Olympique Lyonnais peut me permettre de passer une étape supplémentaire dans ma carrière. J'espère y rester le plus longtemps possible, comme j'ai toujours fait dans les clubs où je suis passé. Et j'ai hâte d'être au cœur des événements, en sachant que vous vous doutez bien, la priorité d'un coach, et c'est pas une manière de dire, c'est une vérité, c'est la plus importante sur le prochain match, et donc le plus important c'est de gagner samedi contre Dijon, et toute mon énergie est dirigée vers ça.
Alors Rudy Garcia à Lyon, ça a de quoi surprendre quand même, parce qu'il y a un passif entre lui et notamment le président Jean-Michel Aulas. Les deux hommes se sont souvent écharpés par médias interposés, mais cela semble appartenir au passé. Vaut mieux avoir le président Aulas avec soi que contre soi, expliquait Rudy Garcia. De son côté, Jean-Michel Aulas a loué la combativité de ce dernier. Alors, si le triumvirat Garcia, Juninho, Aulas semble se mettre en place, reste à convaincre les supporters. Et là, ce ne sera pas une mince affaire. Une réunion est d'ailleurs prévue en ce sens cet après-midi.
Merci Julien Froment du service des sports d'Europe 1.
Paris se prépare à l'ouverture de la FIAC 46e édition. Pierre, l'un des plus grands rendez-vous mondiaux de l'art contemporain.
Oui, jeudi, ouverture au public. Mais dès demain, la presse et les collectionneurs viendront investir le Grand Palais. C'est vrai qu'avec Art Basel et la Frise à Londres, la FIAC est l'une des trois foires d'art contemporain les plus importantes au monde. Nous sommes avec sa directrice Jennifer Flay. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. Le problème de l'art contemporain, c'est son image. On dit que c'est très cher et que c'est souvent incompréhensible. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Eh bien, c'est très cher parfois, mais il s'agit d'un petit nombre d'artistes, les artistes qui sont en haut de l'affiche. Il y a beaucoup de jeunes artistes qui travaillent et qui sont les futurs grands artistes demain et dont les œuvres sont extrêmement abordables. Et je fais un point d'honneur d'ailleurs à avoir dans à la FIAC une sélection de galeries qui produisent des éditions de multiples, parfois des objets, parfois des estampes, parfois utilisant d'autres médiums en volume, qui sont édités à quelques exemplaires. Et là, on ne parle pas du prix, des prix aussi chers. D'ailleurs, il y a à la FIAC une loterie qui va être lancée en ligne uniquement, qui s'appelle un Picasso pour 100 euros. Et en achetant un billet pour cette loterie, c'est un tableau de Picasso de 1921, un nature morte, dans le plus bel style, on peut contribuer à financer l'alimentation en eau de 100 écoles au Madagascar, Maroc et en Afrique. Donc, est-ce que l'art est cher? Oui. Parfois, mais parfois non, pas du tout.
Jennifer Fay, justement, si je ne suis pas collectionneur ou collectionneuse, je peux le devenir en allant à la FIAC. Je peux, par exemple, acheter des œuvres à 100, à 500 euros.
Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a des multiples, comme je vous dis, qui sont des vraies œuvres, des véritables œuvres, et qui sont vendues à des prix tout à fait raisonnables. Mmh. Il y a d'ailleurs, une autre association qui est présente à la FIAC, EDVO, qui œuvre pour la réinsertion de personnes ayant subi, ayant été victimes d'addiction, notamment à des substances psychotropes, qui vend ici des œuvres originales pour 75 euros. Il y a de grands artistes qui ont contribué à ce lever de fonds. Je viens de voir les œuvres. Il y a de très belles choses. Certaines des artistes anonymes, ouais. D'autres des grands artistes, et c'est 75 euros.
Donc l'art contemporain,
oui.
Ouais, l'art contemporain peut rejoindre également les bonnes causes. Merci beaucoup Jennifer Fay, et bonne 46e FIAC qui commence donc ce jeudi au Grand Palais pour 4 jours.
Et nous serons d'ailleurs en édition spéciale dans La France Bouge consacrée à l'art ce jeudi, Pierre.
Il est midi 26. Europe 1.